Accès libre.
Bonjour à tous, Anne-Laure Janson au micro, vous écoutez Accès libre, une émission signature de Canal M, dans laquelle on parle d'accessibilité, d'inclusion et de défense de droits. Si vous désirez faire un commentaire ou qu'un sujet vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous appeler au 514-282-1999, poste 220, ou à nous écrire sur nos réseaux sociaux, mot-clic, Canal M. Aujourd'hui, nous recevons en table ronde Christian Cyr du comité de coordination des négociations à la CSN et Jessica Cacciatore, conseillère en emploi programme Le Pont, pour s'attarder pour parler en fait des droits des travailleuses et travailleurs en situation de handicap. Et oui, le 1er mai approche. Nous allons donc aborder cette question et c'est une idée originale de Benoît Racette lorsqu'il était encore au micro. D'ailleurs, je vous invite aussi à participer. Les droits des travailleuses et travailleurs en situation de handicap sont-ils bien reconnus? Comment les syndicats pourraient-ils favoriser une meilleure inclusion au travail? Tommy Théberge nous présentera le bilan tout chaud du plan d'action 2017 pour les personnes handicapées à l'agglomération de Longueuil et Opsavar nous présentera des destinations de choix accessibles à tous au Canada. Tout ça sur Canal M. Ensuite, je reçois Michel Tremblay, directeur général de la société Santé en français. Son organisme vient de lancer une campagne nationale pour de meilleurs soins et services de santé en français, pour ceux qui le désirent, à travers le pays. Alors début avril, bonjour monsieur Tremblay.
Bonjour.
Bonjour, début avril, on apprenait le lancement d'une campagne nationale pour une francophonie canadienne en santé. Cette campagne vient appuyer une déclaration d'Ottawa formulée quelques mois plus tôt. Vous êtes le directeur général de la société Santé en français. Pouvez-vous nous rappeler la mission et les services de votre organisme, s'il vous plaît?
Oui, bonjour. Alors, la Société Santé en français est un organisme pan-canadien qui travaille à augmenter l'accès à la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Et nous travaillons avec 16 réseaux répartis partout au Canada. Et la déclaration est aussi fait conjointement avec le Consortium national de formation en santé, qui fait partie de l'Association canadienne des collèges et des universités de la francophonie canadienne et qui regroupe 11 collèges et universités de la francophonie augmenter l'accès à la santé par des professionnels de la santé.
D'accord. Et quel est le but de cette campagne donc que vous avez intitulée « J'agis, je m'engage ».
La société travaille avec des réseaux pour augmenter l'accès ainsi que les collèges pour la formation des professionnels. Mais ce qu'on voulait, c'est donner une chance aux gens qui nous appuient, des gens qui sont derrière nos organisations, pour faire un geste concret, pour dire je m'engage et j'appuie la déclaration d'Ottawa, j'appuie ce que l'on croit qu'on devrait obtenir là, comme service et aussi donner une chance aux gens de s'engager formellement derrière certains grands principes de la déclaration.
D'accord. Donc là, c'est des personnes qui soutiennent le gouvernement. C'est assez rare, mais je veux dire, c'est souvent le contraire. Est-ce que Ottawa a le pouvoir de faire appliquer sa propre déclaration en la matière?
Bien, la déclaration, ça a commencé lors d'un rendez-vous de la santé en français en novembre dernier. On a regroupé autour de 350 personnes à Ottawa et des professionnels, des gens des communautés, des établissements de santé, pour ensemble échanger sur les bonnes pratiques, échanger sur les façons de faire pour faire avancer la santé en français. Et on a joint à cet exercice la création de cette déclaration et les 350 participants au rendez-vous ont eu la chance de modifier, de changer, de donner leurs mots dans ce sens-là. Et à la fin, on a dit ça, c'est la déclaration là, qu'on appuie. Et on voulait pas que ça reste juste un exercice pour ces gens temps-là, mais que ça devienne un exercice plus large. Et le but, en fin de compte, c'est d'influencer nos gouvernements provinciaux et fédéraux, d'influencer ces gens-là pour dire qu'on est plusieurs derrière le travail de la société, le travail du CNFS pour changer l'accès à la santé en français.
Bien Donc, sûr. C'est D'accord.
Ouais, on va encourager la participation là, des gens.
Tout à fait. Donner plus de poids à cette déclaration. Actuellement, combien de personnes sont soignées en français dans les communautés francophones et canadiennes au Canada?
Selon les statistiques, il y a presque 1 100 000 personnes un peu partout réparties là, dans les 12 provinces et territoires en situation minoritaire. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est trop, comme Et ça varie d'un endroit à l'autre. On a un pays avec une géométrie variable. Il y a des endroits où il y a des grandes concentrations de communautés francophones, comme en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Mais il y a d'autres endroits où les communautés sont beaucoup plus dispersées sur des grands territoires. Les obligations, je dirais, législatives ou les politiques sur les services en français varient aussi d'une province à l'autre.
Mm-hmm. Oui.
Le gouvernement fédéral, lui, n'a pas de rôle à jouer majeur dans la prestation des services. C'est un rôle des provinces, c'est une juridiction provinciale ou territoriale. Le gouvernement fédéral, son rôle, c'est d'appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire pour faire avancer la loi des langues officielles. Mm-hmm. Et nous travaillons conjointement avec les provinces justement pour les influencer, les convaincre, arriver avec des argumentaires pour leur dire que c'est bon pour la santé d'avoir des services dans sa langue.
Je comprends bien. Excusez-moi, je buvais un verre d'eau. Et maintenant, concrètement, les solutions, est-ce qu'elles sont financières d'abord?
J'ai pas compris la question.
Les solutions pour des meilleurs soins en santé, est-ce que c'est avant tout des questions financières pour les communautés?
Pas nécessairement financière, ça c'est une partie oui, mais c'est aussi ça prend un leadership, ça prend une volonté. De faire des changements. De reconnaître d'abord que c'est un besoin, que de reconnaître que c'est la bonne chose à faire pour aider les gens à avoir des meilleurs services, pour aider les gens à être en meilleure santé. Donc, ça veut dire, nous, ce qu'on promouvoir, c'est introduire l'offre active dans les services de santé en français, c'est de trouver des moyens d'adapter les services ou l'organisation des services pour répondre aux besoins, d'avoir du personnel bilingue. Ça, c'est un employé bilingue peut desservir tout le monde. Donc, c'est de promouvoir l'embauche et le recrutement, puis la rétention de personnel bilingue partout pays. Puis d'avoir dans certains endroits, il y a l'utilisation de certains services temporaires là, comme des interprètes ou des navigateurs de systèmes. Ça, c'est devenu une approche assez populaire là, pour les groupes multiculturels ou autochtones, francophones, d'avoir des navigateurs de systèmes qui accompagnent le client pour bien comprendre son professionnel de la santé.
D'accord.
Ouais.
Et rapidement, comment soutenir cette campagne?
La campagne va bien, on est bien parti. Puis ce qu'on encourage les gens, c'est aller sur le site web pour s'engager formellement. Ça s'adresse d'abord aux individus, aux personnes qui veulent faire un geste individuellement. Et ça s'adresse aussi aux organismes de santé qui veulent appuyer formellement par une résolution de leur conseil d'administration, par exemple.
D'accord.
Donc, c'est d'aller sur le site www.je-m'engage-santé.ca.
D'accord. Merci beaucoup, M. Tremblay. Je rappelle, vous êtes directeur général de la Société Santé en français. Je pense que Vusevoix va probablement signer, en tout cas. Je ne m'engage pas, mais j'espère. Merci, au plaisir.
Merci, au revoir.
Des maisons, boîte à surprise.
La ville de Longueuil, comme toutes les municipalités d'au moins 15 000 habitants, produit chaque année un plan d'action annuel, visant à éliminer les obstacles que rencontrent les personnes en situation de handicap. Ce plan est public et fait l'objet d'un bilan. Tommy Théberge, aujourd'hui, est là pour nous présenter le bilan d'action du plan d'action 2017, qui est encore tout frais puisqu'il vient d'être adopté au dernier conseil d'agglomération. Tommy Théberge est conseiller municipal pour le district des Explorateurs à Longueuil. Bonjour, monsieur Théberge.
Bonjour, comment allez-vous?
Comment ça va? Très bien. Et vous?
Oh, excellent. Ah oui, on a beaucoup de travail puis on a des belles choses à parler aujourd'hui.
Bon, c'est formidable. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises au cours de l'année qui se termine en matière d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap à Longueuil?
Tout d'abord, peut-être c'est important de préciser que toute l'information est disponible aussi sur le portail de la ville de Longueuil, donc longueuil.quebec/PIPH. Donc, toutes les informations concernant les services, les mesures qui sont mises en place pour les personnes handicapées sont disponibles à cette adresse.
Oui, j'ai vérifié, le bilan n'est pas encore en ligne, mais devrait l'être bientôt, j'imagine.
Ah, il devrait l'être sous peu si ce n'est pas déjà fait. Là, effectivement, je crois qu'il ne l'était pas, mais le plan d'action y était, par exemple, oui, pour celui qui était en 2016-2017. Donc, comme vous savez, toutes les villes de 15 000 habitants et plus doivent adopter un plan d'action, un plan d'intervention qui vise à favoriser l'intégration sociale, scolaire, des professionnels, des personnes handicapées. Donc, Longueuil a fait un pas en cette direction encore une fois de plus cette année. Donc, il y a eu 36 actions qui ont été planifiées au cours de l'année 2017. Donc, plusieurs couvrent deux années. Mais essentiellement, on peut en dénombrer 36 dans ce bilan. 13 nouvelles actions, donc 14 actions qui vont être reportées pour l'année prochaine. Donc, il y a quand même beaucoup de travail de fait, puis il y a beaucoup de travail à venir aussi.
Et concrètement, alors, racontez-nous, donnez-nous envie.
Nos actions tournent avec, si on peut résumer, autour de différentes sphères d'activité. Évidemment, il y a l'architecture, l'urbanisme. On a tout ce qui est les loisirs, l'emploi, communication, donc évidemment formation, sensibilisation aussi au personnel ici à l'Hôtel de Ville et évidemment dans nos événements. Donc, si on y va peut-être avec des petits faits saillants selon les champs d'action. Donc, évidemment, au niveau architecture urbanisme, au cours de la dernière année, on a travaillé à l'Hôtel de Ville à rendre davantage notre environnement accessible, que ce soit avec des comptoirs d'accueil, une amélioration d'éclairage, donc des gestes concrets qui permettent maintenant aux personnes handicapées d'avoir accès plus facilement à notre Hôtel de Ville, bien sûr. Mais moi, je suis très, très heureux aussi de voir tout le travail qui s'est fait au niveau de l'accessibilité, par exemple, dans nos piscines. Donc, on a mis en place, que ce soit par exemple à la piscine Olympia, des mesures, un lève personne qui est disponible sur place, à Saint-Hubert, au centre sportif Roxane Laflamme. On a ce même type d'installation-là aussi, donc ça permet aux baigneurs de pouvoir profiter. Au niveau des arénas aussi, donc il y a eu des aménagements qui ont été faits pour rendre accessible. On peut penser aussi, parmi des mesures intéressantes qui ont été mises en place au niveau des parcs puis des espaces verts. Donc, à Longueuil, on a beaucoup travaillé au cours des dernières années à donner vie à nos parcs puis à améliorer nos installations. Puis évidemment, quand on fait ces améliorations-là, on essaie d'avoir la préoccupation de les rendre les plus accessibles possibles. Donc, par exemple, il y a plusieurs parcs où on a mis des sièges de balançoires adaptés, on a abaissé les bordures de certains endroits pour faciliter l'accès, évidemment, des tables de pique-nique accessibles aussi, donc qui sont un peu plus basses. Donc, on a acheté beaucoup d'équipements dans ce sens-là aussi, des modules de jeu munis de plateformes pour accéder au premier palier, donc à partir du sol. Donc, toutes sortes d'équipements
qui
permettent aux personnes handicapées. Puis on peut les retrouver, Parc La Violette, Parc La Flamme, donc dans plusieurs parcs de Longueuil. Je nomme ces deux-là, mais il y en a quand même beaucoup. Je vous ferai pas l'énumération. Puis, évidemment, on a différentes mesures aussi qui sont en termes, je vous dirais, plus de loisirs. Par exemple, notre plage municipale. Maintenant, à Longueuil, on dispose d'une plage municipale. On s'est assuré que l'accès, maintenant, au niveau de l'autobus se fasse bien. pour les personnes handicapées. Évidemment, on a d'autres petites mesures aussi qui nous permettent de faire bouger notre monde. Donc, par exemple, on a des services de location de vélos adaptés, des vélos tandem, qui sont disponibles au parc Michel Chartrand ou au parc de la Cité, donc sous forme de location. Évidemment, au niveau du loisir aussi, si on regarde un petit peu, ben il y a la mise en place de la vignette d'accompagnement touristique pour le loisir. Donc, Longueuil adhérait justement en 2014 à cette application, ce programme-là, pour pouvoir permettre aux personnes, et en fait, l'accompagnateur d'une personne de 12 ans et plus qui a une déficience ou un problème de santé mentale, donc nécessitant une aide lors de la pratique d'activité, oui. Ben, d'avoir accès justement à ces activités-là facilement, avec gratuitement, parce qu'effectivement, il y a des mesures de file d'attente aussi. Donc, on sait aussi que des gens, des fois, dans les files d'attente, ne peuvent pas supporter pour toutes sortes de problématiques. Donc, on le signifie tout simplement, puis à ce moment-là, le personnel qui est formé est au fait de tout ça, puis il va faciliter l'accès. Donc, ça, c'est des exemples au niveau du loisir
et tout. C'est intéressant.
Il y en a encore plein d'autres.
Ben, j'espère bien, puis le bilan est assez conséquent. Je me demandais, moi, comment étaient identifiés les secteurs d'intervention. Est-ce que les gens qui habitent Longueuil peuvent vous faire des demandes? Est-ce que
en fait, il y a différents niveaux. Évidemment, les personnes qui souhaitent avoir des aménagements ou qui ont des questions ou des propositions, bien, c'est sûr qu'on a, via le 311. Le 311, c'est un service qu'on a mis en place à Longueuil. Donc, ça peut se faire par téléphone ou évidemment par Internet. Donc, ils peuvent nous signifier c'est quoi le besoin. Puis après ça, tout ça va être analysé. Évidemment, il y a le rôle du conseiller aussi. Hein. Le conseiller, c'est un peu l'intermédiaire entre finalement le citoyen, l'administration de la ville. Donc, le conseiller aussi peut aider la personne dans ses démarches. Et évidemment, tout ce beau plan d'action-là, ben, il est le fruit d'efforts concertés avec le milieu associatif, avec le milieu communautaire, puis évidemment le secteur public. Donc, il y a des associations, il y a des représentants de groupes de personnes handicapées, il y a les centres de réadaptation, on en a trois sur notre territoire. Donc, évidemment, qui sont très impliqués dans le comité, puis ce comité-là fait des rencontres périodiquement, assez régulièrement, pour pouvoir faire évoluer le plan d'action, puis amener différents éléments qui vont être suivis, qui vont être discutés.
Et là, il reste un petit peu moins d'une minute. Est-ce que on peut juste vous pourrez juste nous présenter les dossiers pour l'année prochaine qui sont en vue?
C'est certain que au niveau des installations, au niveau des équipements, on va poursuivre le bon travail qui est déjà amorcé dans nos parcs, dans nos installations sportives. Pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, notre mairesse Sylvie Parent annonçait la mise en place d'un complexe aquatique ici à Longueuil, à Saint-Hubert. Donc, évidemment, toutes ces installations-là, tous les nouveaux bâtiments que la ville va mettre en place, bien évidemment, vont être soumis à ces standards-là d'accessibilité. Au niveau peut-être des trucs aussi qui s'en viennent, bien, moi, je suis quand même très satisfait de l'effort qui est amorti au niveau de l'accès à l'information. Donc, par exemple, si je prends Espace Longueuil qui regroupe les activités de loisirs, ben, on peut avoir un document en format accessible qui peut être lu par les personnes qui utilisent des aides adaptées. Le printemps culturel qui est en cours actuellement à Longueuil, c'est une centaine d'activités. Bien, évidemment, la documentation est aussi accessible sur notre site Internet dans un format Word. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va poursuivre
très
dans la
positif.
Prochaine année.
D'accord. Bien, écoutez, M. Tommy Théberge, conseiller municipal district des explorateurs à Longueuil. Et également aussi, je dois le dire, vous avez un handicap visuel, donc vous êtes aussi bien placé pour nous faire part de ce bilan. Merci beaucoup, puis à bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Le regroupement québécois des maladies orphelines, le RQMO, demande depuis sa création en 2010 un plan national sur les maladies rares. Alors où en est-on maintenant? Rosemarie Ticlet, membre du conseil d'administration du RQMO et responsable de la stratégie québécoise sur les maladies rares, fait le point avec nous. Bonjour Madame Ticlet.
Bonjour, alors ça va bien?
Oui, merci. Alors que s'est-il passé durant la dernière année? Est-ce que les choses ont avancé pour ce plan national sur les maladies rares?
Oui, ben, en fait, il y a eu des belles opportunités malgré le fait que depuis 2011 que la création de ce comité par M. Bolduc nous a été promise mais qui n'a jamais vu le jour. Mais ce n'est que dernièrement, on a finalement eu une rencontre avec le docteur Barrette le 3 juillet 2017. Alors, on était trois membres du conseil d'administration du RQMO et incluant aussi M. Pierre Lavoie de la fondation Pierre Lavoie. Donc, c'était une très belle rencontre. Et puis, le ministre, Dr Barrette, nous a promis cette journée-là vraiment qu'il y aura une mise en place d'un plan d'action au sein du ministère pour pouvoir faire avancer la stratégie et la mettre en place avec différents professionnels de la santé, d'intervenants en différents milieux, et puis incluant aussi le RQMO, on va être présent, c'est certain, au sein de ce, on va dire, un comité de travail qui va être mis en place pour avancer la chose. Donc ça, c'était une très belle nouvelle pour nous. Cependant, on n'a pas eu encore une deuxième rencontre subséquente suite à cette rencontre du 3 juillet. Mais ce que nous, on a fait, le RQMO, on voulait vraiment faciliter le travail avec le ministère et puis donner une seule voix des personnes atteintes de maladies rares. Donc, ce qu'on a fait, Arcamon, on a créé un comité interne qu'on appelle aujourd'hui le CSMR, le Comité Stratégie des Maladies Rares, et il inclut à peu près environ 15 à 16 associations de patients de maladies rares. Oui. Exact. Et ce comité-là a vu le jour le 18 décembre 2017 et on s'est rencontrés et puis le travail, il y a l'enthousiasme, l'engagement, la passion des personnes présentes au sein de ce comité-là pour pouvoir avancer la cause. Et là, on voulait donner une seule voix commune au lieu d'avoir plusieurs dossiers pour chaque association de patients, mais puisque les maladies rares, on en a comme plusieurs points communs, donc c'est ça, on voulait faciliter le travail. Puis on s'est rencontrés et puis on a eu une deuxième rencontre le 26 mars 2018 et on a fait une ébauche d'un document qui détaille les trois priorités communes de la stratégie québécoise en matière des maladies rares. Exact. Et ce document-là, on l'a présenté, on l'a envoyé au ministère le 9 avril, donc tout récemment. Oui. C'est ça. Donc, c'est vraiment, puisque la stratégie, elle a six grands éléments qui a été fait, mis en place suite au sommet sur les maladies rares en février 2015.
Oui, que vous aviez organisé aussi. Et les trois priorités, alors, que vous avez déterminées? Quelles sont-elles?
Vraiment, c'est la formation et information qui est l'éducation et l'information qui sont vraiment les clés d'une meilleure prise en charge pour les personnes atteintes de maladies rares. Donc, formation de médecins, professionnels de la santé, vraiment pour que ces personnes atteintes de maladies rares soient connues, reconnues et bien prises en charge. Le deuxième point, c'est le diagnostic et prévention. Vraiment, le plus tôt qu'on peut diagnostiquer et dépister les maladies rares, le mieux qu'on peut les traiter et les prendre en charge.
Oui.
Donc, ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est la prise en charge médicale, consulter et collaborer pour mieux soigner ces personnes-là. Donc, on a voulu présenter ces trois priorités-là au ministère, et puis comme pour débuter le travail. Et c'est sûr que les trois autres éléments, qui sont le traitement, la recherche, la prise en charge psychosociale, qui font partie de la stratégie, vont suivre. Et puis, il y aura comme un certain chevauchement d'éléments oui. de prise en charge, effectivement.
Et là, vous attendez donc un autre rendez-vous avec le ministère de la Santé?
Oui, Oui, donc c'est ça, on a une très belle collaboration avec le ministère depuis dernièrement, ça va super bien. Et puis le fait qu'on facilite le travail et qu'on montre qu'on veut travailler ensemble.
Ça doit accélérer les choses. Ouais.
Exactement.
Ouais.
Donc, ils considèrent très sérieusement le document qu'on leur a envoyé. Et puis, ils vont nous revenir prochainement.
D'accord.
Ils sont en train d'élaborer un plan d'action.
D'accord.
Donc, c'est ça qu'on attend impatiemment maintenant.
Bon, ben,
donc, les 500 000 Québécois atteints de maladie rare atteints ce plan d'action.
J'espère que la prochaine fois, vous allez nous présenter en onde ce plan d'action, cette stratégie, en fait. Merci
exact.
Beaucoup.
Merci.
Bonne journée, Rosemarie Ticlet. Je le rappelle, vous êtes membre du CA du RQMO et responsable de la stratégie québécoise sur les maladies rares.
Vous écoutez Accès libre.
De la semaine. Les droits des travailleuses et travailleurs en situation de handicap sont-ils bien reconnus ? Comment les syndicats pourraient-ils favoriser une meilleure inclusion au travail ?
Alors c'est autour du 1er mai que nous vous proposons cette table ronde en marge donc de la fête des travailleurs et des travailleuses. La question de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, comme vous le savez, est centrale et difficile. Le droit des travailleurs et travailleuses en situation de handicap sont-ils bien reconnus ? Comment les syndicats peuvent favoriser une meilleure inclusion au travail ? C'est la question qu'on vous pose. Et avec moi en studio aujourd'hui, je reçois une spécialiste en situation de handicap de l'intégration socio-professionnelle, Jessica Cacciatore, qui est conseillère en emploi en situation de handicap pour le programme Le Pont à Vie Autonome Montréal. Bonjour Jessica.
Bonjour.
Et je reçois également un représentant d'une des plus grandes centrales syndicales du Québec. J'ai nommé Christian Cyr, coordonnateur du comité des négociations à la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. Bonjour Monsieur Cyr.
Bonjour.
Donc, je vais m'adresser dans un premier temps à Jessica Cacciatore. Globalement, qu'en est-il du secteur de l'emploi pour les personnes en situation de handicap au Québec?
Et ça, c'est une très grosse question. En fait, on sait que c'est difficile en ce moment. J'ai été voir les dernières statistiques de l'OPHQ qui dataient de 2012. Et on parlait d'environ 350 000 personnes avec une limitation qui étaient en mesure de travailler, et seulement 39 % travaillaient en ce moment. Et il y a quand même, dans cette population-là, 46 % qui ont besoin quand même d'un certain soutien, service ou mesure pour accommoder l'environnement de travail, pour être en mesure d'offrir une bonne performance aussi au travail, puis être répondre à la concurrence travailleur.
Oui. Et donc, c'est quand même, c'est pas énorme, des 39% ont besoin d'accompagnement.
Non, c'est pas énorme, puis ce qu'il faut savoir, c'est que ce 39%-là est couvert beaucoup par des handicaps dits plus légères, mais aussitôt que l'handicap est modéré à sévère, donc ça demande plus de soutien. Et en ce moment, il n'y a pas beaucoup de soutien, pas beaucoup de subventions pour aider à l'intégration d'une personne en situation de handicap et encore moins sur le maintien. En ce moment, les contrats d'intégration au travail, ils sont gelés depuis longtemps. Et donc, il y a une grosse partie de notre clientèle qui est brimée à trouver de l'emploi en ce moment. Et ça demande aux conseillers en emploi d'être un peu plus créatifs sur la façon de trouver du travail aussi.
C'est sûr. Et y a-t-il des différences entre les personnes déjà en emploi et celles qui sont à leur intégration dans un premier emploi?
Ça dépend dans le sens, comme je vous ai dit, il y a une bonne population en ce moment qui a de la difficulté parce que la mesure de CT n'est plus là. Par exemple, ceux qui sont en maintien en emploi, qui ont déjà un contrat d'intégration au travail, le renouvellement n'est pas coupé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce renouvellement-là est quand même une mesure temporaire. Et donc, sur du long terme, le maintien, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'argent injecté pour aider au maintien. Bien sûr, il y a les grosses entreprises qui sont on doit respecter les droits les normes du travail, les droits du travail, mais reste que dans les plus petites entreprises, l'aspect financier est un gros enjeu.
Oui.
Pour pouvoir accommoder adéquatement ces personnes.
Oui, ils n'ont pas de subvention pour les aider.
Oui, c'est ça.
Et vous travaillez souvent avec des employeurs. Que peuvent faire les syndicats dans la chaîne de l'emploi des personnes en situation de handicap? Pensez-vous qu'ils ont un rôle?
Ben oui, en fait, à peu près 40 % là, de ma clientèle qui va utiliser, qui travaille avec dans un environnement où il y a un syndicat. Et donc, le syndicat peut être en mesure de défendre leurs droits, donc les appuyer en fait à respecter les accommodements qu'ils doivent recevoir, que ce soit à l'entrée ou même qu'il y ait eu un accident de travail ou au maintien ou avoir une bonne qualité de travail en fait. Mais je crois que notre ami va être en mesure d'expliquer tout ça.
On a quelqu'un de bien placé pour nous en parler, Christian Cyr. Donc, que faites-vous à la CSN pour les droits des travailleurs en situation de handicap?
Bien, en fait, quand on parle des droits des travailleurs au niveau du handicap, il y a l'embauche qui est une chose, ou est-ce qu'on est moins présent parce que c'est la prérogative de l'employeur?
Oui.
Mais il y a, une fois que le travail est à l'emploi et que survient un handicap, qu'il soit permanent, temporaire, parce qu'il peut être temporaire, qu'il soit dû au travail ou à une condition personnelle, on a un rôle à jouer dans le retour au travail. Premièrement, faut négocier ces conditions-là qui font en sorte qu'on va encadrer ces retours au travail-là. Il faut s'assurer que l'employeur respecte la convention collective et les lois applicables, le retour à son poste, le cumul des congés qui se sont passés pendant l'arrêt de travail. Puis tout ça. Là, on parle vraiment là, de... Il y a du pécunier technique, aussi oui, qu'il faut regarder. On doit aussi collaborer avec l'employeur dans le devoir d'accommodement. Exemple, quelqu'un qui, du jour au lendemain, serait handicapé suite à un accident d'automobile. Et il faut regarder. On ne peut pas tout simplement dire que cette personne-là n'est plus capable de faire le travail. Il faut faire une évaluation, avoir un relevé médical, à savoir c'est quoi ses limitations fonctionnelles, qu'est-ce qu'il ne peut plus faire, qu'est-ce qu'il ne peut plus faire dans l'emploi, et regarder l'emploi dans lequel il était, et si c'est possible de modifier le milieu où est-ce qu'il travaillait, de le faire, si ce n'est pas une contrainte excessive.
Oui.
Les tâches, bon. Et si c'est pas possible, y a-t-il un autre endroit dans le milieu de travail où est-ce que cette personne-là peut aller? Donc, et ça, là-dedans, on accompagne la personne, puis on essaie de trouver des solutions avec l'employeur, de lui suggérer, mais c'est pas toujours facile avec les employeurs.
C'est ça, j'allais vous demander, comment ils collaborent ou coopèrent, est-ce que...
C'est variable.
C'est variable.
Il y a des entreprises qui sont ouvertes à regarder ces choses-là, il y a d'autres entreprises que c'est... S'ils peuvent se débarrasser de ces gens-là, ils vont le faire. Puis ils vont trouver toutes les raisons possibles pour
le
faire.
Ah mon Dieu, OK. Donc,
c'est aussi clair que ça.
OK. Culturellement, ils partent de loin, quoi.
Oui.
C'est culture d'entreprise.
Et aussi, à la CSN, on a un service de prévention qui peut aider aussi les syndicats. Où est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialistes, des ergonomes, entre autres, ingénieurs et hygiénistes du travail, qui peuvent aider le syndicat au niveau de la réintégration, là.
Est-ce qu'ils peuvent venir sur place?
Oui.
Pour...
Okay. Quand l'employeur accepte qu'on y aille,
d'accord.
Il faut avoir une entente avec l'employeur pour que nos experts puissent avoir accès.
Oui, mais pourquoi ils refuseraient?
Ben, premièrement, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit... ils veulent pas intégrer la personne, fait qu'ils ne veulent pas nous donner la chance de trouver une façon de le faire. Puis deuxièmement, il y a des entreprises, quand ça ne fait pas longtemps, particulièrement quand ça ne fait pas longtemps ou qu'on sort d'un conflit, ça fait pas longtemps que tu es syndiqué. L'employeur n'a pas trop accepté le syndicat. Fait que des fois, c'est difficile
de
se faire accepter et de permettre à nos experts d'aller signer.
Dans les murs, oui.
Règle générale, ça va.
D'accord. Et c'est ça, les droits des travailleurs en situation de handicap, ils sont les mêmes finalement que les droits de tous les travailleurs? Ou il y a des nuances?
Je vous dirais, il y a des nuances. Une fois qu'ils sont sur le poste de travail puis qu'ils font le même travail que tout le monde, ils vont garder les droits là, qui sont liés au poste qu'ils occupent. Même qu'on a certaines conventions qui prévoient que quelqu'un qui, suite à un handicap, sera obligé d'être reclassé à un poste où est-ce que la rémunération est plus basse, mais on va maintenir quand même le salaire qu'il avait avant pour pas créer une baisse de salaire. À ce moment-là, c'est... Pour moi, par rapport à la personne qui occupe le même poste, qui gagne moins cher, ben, ils ont un petit peu supérieur.
Mm-hmm.
Sauf que la personne qui gagne moins cher n'a pas le handicap.
D'accord, oui. est-ce que vous travaillez, est-ce que la CSN travaille aussi avec des entreprises dont les employés sont tous en situation de handicap ou... est-ce que les entreprises adaptées sont syndiquées?
Pas à ma connaissance, ou est-ce que tous les employés ont un handicap, mais il y a certains centres de tri qui embauchent des personnes avec un handicap.
Et là, vous travaillez de la même façon?
Oui, on voit à ce que les droits soient respectés puis qu'ils ont les mêmes choses que tout le monde au niveau de la convention collective.
D'accord. Eh bien, ça, c'est une première partie de table ronde. Nous allons tout de suite en pont musical. On rappelle la question de la semaine et on se retrouve juste après.
Cheveux, l'élégance de ta démarche quand tes pas se dirigent vers moi. Ton nom est le plus beau qui soit. Tu me visites. dans mes rêves, tu me suis quand je me lève, tu te loges dans ma tête. J'avoue, j'ai une envie folle de toi. Un éclair me traverse quand je t'aperçois. Tu es le printemps de mes hivers. Je suis dans les étoiles quand je pense à nous deux. Je veo estrellas cuando preguntas por mí. Je veo estrellas cuando te acercas a mí. Je veo estrellas que en mi vida nunca vi. Je veo estrellas que me enamoran de ti. Que me enamoran de ti.
Question de la semaine. Les droits des travailleuses et travailleurs en situation de handicap sont-ils bien reconnus? Comment les syndicats pourraient-ils favoriser une meilleure inclusion au travail?
Alors, continuez à nous répondre à cette question sur canalem.vusevoix.com. Je le rappelle, nous sommes avec Jessica Cacciatore, conseillère en emploi en situation de handicap pour le programme Le Pont à Vie Autonome Montréal, et Christian Cyr, coordonnateur du comité des négociations à la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. Monsieur Cyr, la CSN a déjà publié un guide pour soutenir la gestion des accommodements raisonnables en 2010, je crois. Est-ce qu'on vous demande souvent d'intervenir dans ce type de situation?
Mais en fait, dans plusieurs dossiers, les conseillers syndicaux ont à intervenir suite à un handicap. Il arrive des blessures tous les jours et il y a des gens, malheureusement, qui, que ce soit de façon au travail ou non, ont à... avoir des limitations fonctionnelles qui font qu'il faut examiner l'emploi dans lequel elle était avant, si elle peut encore l'occuper, et on doit prendre
action. Donc ça vous arrive souvent?
Oui, ça arrive souvent.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut négocier spécifiquement pour un poste, pour une personne en situation de handicap?
Oui, c'est toujours pas facile avec les employeurs d'aller chercher ces genres de clauses-là, mais dans les endroits où est-ce qu'on réussit, c'est bien. Entre autres, il y a le droit de retour à son poste. On sait que dans le cas de la loi C'est énorme, c'est 6 mois. Dans le cas de la loi sur les accidents de travail, c'est 2 ans. Nous, on cherche à avoir plus long que ces droits de retour-là. Le lien, le retour progressif au travail, d'avoir une façon de revenir tranquillement au travail quand ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé. Mm-hmm. Que tu puisses revenir tranquillement. Des postes protégés pour des gens qui sont handicapés. Et,
ça veut dire que c'est des postes exclusivement réservés à des personnes en situation de handicap?
Si les postes ne sont pas comblés, là, des gens peuvent les prendre, mais dès qu'il y a quelqu'un qui tombe en situation de handicap, ces postes-là sont réservés en premier lieu aux personnes.
Et si les personnes sont elles tombent pas, mais elles sont en situation de handicap, est-ce que ça joue aussi? Ça rentre dans les critères?
Oui.
Oui. Et il y en a beaucoup des postes
comme ça? Mais souvent, c'est pas à l'embauche, là. C'est vraiment des gens qui sont
déjà dans l'entreprise.
Qui sont déjà dans l'entreprise et que là, il survient quelque chose.
Ah, d'accord. Donc, c'est suite à un accident ou quelque chose qui arrive dans la vie de la personne, mais pas... OK, je comprends.
Et une chose qu'on a négociée dans une usine, où est-ce qu'il y avait des postes protégés, justement? Quelqu'un qui, après 10 ans, est toujours sur le poste protégé, mais que sa situation s'est améliorée. Sa situation physique s'est améliorée, puis qu'elle pourrait occuper un autre emploi. Et en plus, les autres emplois aussi se sont améliorés. Meilleure suspension sur les véhicules. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On a réussi à obtenir en négociation qu'une personne peut demander une réévaluation pour pouvoir...
Quitter ce poste.
Monter dans la hiérarchie de l'entreprise, avoir un nouvel emploi plus stimulant.
Oui, parce qu'ils sont protégés, mais ils sont aussi cloués à leur chaise, c'est ça?
Oui.
Ah oui, c'est embêtant.
Oui, et on a réussi. On a au moins une personne que je connais qui a réussi à aller chercher un poste, puis cette personne-là était très contente.
Oui, ça pourrait être inclus dans les conventions, de dire qu'il y a des postes protégés, mais que s'il y a quelqu'un qui arrive et qui est plus en situation de handicap et que l'autre voudrait... faire d'autres choses, que ça puisse, qu'il puisse y avoir un roulement.
Il pourrait.
Et Jessica, tu avais des questions pour M. Ciel?
Ben oui, en fait, je suis un peu curieuse. Qu'est-ce qui arrive pour les personnes en situation de handicap, en fait, qui postulent et qui sont déjà en situation de handicap? Et avez-vous un certain pouvoir ou d'influence par rapport à l'embauche de ces personnes-là? Si la personne a droit à un contrat d'intégration au travail, par exemple, qui pourrait courir une partie de son salaire pour question performance ou aider à payer certains accommodements, ergonomie de bureau, ces choses-là. Est-ce que vous avez un certain droit de regard ou par rapport aux tests d'embauche, par exemple?
En fait, par rapport aux tests d'embauche, puis à l'embauche en tant que tel, le droit de regard des syndicats est inexistant dans la plupart des cas. On peut essayer avec certains employeurs de regarder des choses comme une intégration, mais c'est vraiment des exceptions. Et au contraire, les entreprises, particulièrement les entreprises qui peuvent se le permettre malgré la pénurie de main-d'œuvre, la rareté de main-d'œuvre, il y a des entreprises qui font des examens médicaux des personnes avant l'embauche et qui disqualifient les personnes avant l'embauche dès qu'ils voient quelque chose qui n'est pas correct.
Wow.
Parce qu'ils ne veulent pas que cette personne-là tombe en maladie, l'absentéisme, etc. Donc, c'est plutôt le contraire que les entreprises font. Puis, je vous dirais, ça va plus loin parce que quelqu'un qui cacherait à l'entreprise un handicap et que l'employeur l'apprend un an plus tard, il peut le congédier. On a été en grief là-dessus et on a perdu.
C'est pas vrai. Vous avez perdu.
Ouais.
Mais c'est légal de...
C'est sur le fait que l'employé a menti.
Ah oui. Mais
donc, le lien de confiance avec l'employeur
est rompu. Mais de demander, de poser des questions dans un entretien d'embauche s'il y a un handicap caché ou invisible, est-ce que c'est légal?
Il y a bien des choses qui ne sont pas légales, mais les employeurs le font quand même.
Je veux dire, il n'y a personne qui peut, ils ne veulent pas être poursuivis pour ça ou avoir...
Mais en fait, la personne qui subit l'embauche pourrait se plaindre.
Ben oui.
Mais si elle se plaint, comme je disais à madame tantôt, si elle se plaint et qu'elle doit aller à la commission des droits de la personne pour rétablir la situation, premièrement, elle ne sera jamais embauchée de toute façon. Deuxièmement, son nom va apparaître partout. Mm. Tu sais, tout est public maintenant. Tu vas sur Internet, tu tapes le nom d'une personne, tu sais s'il y a eu une décision, son nom ou non. Donc, les personnes n'ont pas avantage à faire ça. Fait que c'est très difficile. On peut intervenir quand nous, on le sait sur certaines choses, mais en même temps, on n'a pas de contrôle parce que ça fait partie des droits de gérance. De l'employeur l'embauche.
Ouais.
Donc, c'est difficile.
Et elle ne pourrait pas porter plainte au nom de son syndicat?
Elle n'est pas salariée?
Pas encore, effectivement.
Il n'y a pas de lien avec le syndicat.
Oui, c'est vrai.
C'est quand même un peu spécial parce qu'on dit à nos clients, vous n'avez pas à mentionner votre handicap, seulement vos besoins d'accommodement. Et on suggère de le faire après l'entrevue. Donc là, ce que vous me dites là... ça les met un peu... sont mal pris, en fait. Là.
Effectivement.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme société pour faire évoluer ces mentalités?
Et...
Mais en fait, c'est il y a certaines choses comme ça qu'il faut que le gouvernement prenne en main,
oui.
puis qu'il les interdise, puis qu'il mette une police pour les interdire,
ben oui.
un inspecteur. Un inspecteur qui envoie des gens pour... tu l'entends qu'il y a eu ça, au lieu de mettre la personne qui a fait la plainte devant une procédure qu'elle doit faire, tu peux-tu envoyer un enquêteur qui va voir qu'est-ce que l'employeur pose comme question, puis pénaliser les employeurs. Il faut resserrer les règles au niveau... Et les là, entreprises.
Oui, et peut-être que là, le syndicat pourrait avoir un rôle, puisque vous savez les questions qui sont posées aux futurs employeurs.
Oui, effectivement.
Ouais.
Parce qu'il y a quand même une certaine limite à ce qu'on peut faire en termes de sensibilisation, nous, à l'externe, les conseillers en emploi. Donc, s'il n'y a pas d'ouverture de la part de l'entreprise, on reste quand même coincé au bout de ligne.
OK. Bon, ben on va parler de choses qui fonctionnent, parce qu'il n'y a pas que du noir ou du gris, ou en tout cas des histoires comme ça. Est-ce que il y a de belles réussites dont vous voudriez nous faire part ici?
Moi, je sais qu'il y a eu, au réseau de transport de la capitale, il y a quelques années, des belles réussites, où est-ce que le syndicat a fait une bataille pour que l'employeur se serve de l'argent qu'il sauvait pour l'assignation temporaire quand les gens étaient en accident de travail et rentraient travailler quand même pour sauver de l'argent.
Mm-hmm.
Le syndicat a revendiqué qu'une partie de cet argent-là soit mis sur des sièges, on appelait ça à l'époque les sièges Récaro, ce qui fait en sorte que ces sièges-là étaient pneumatiques, il y avait moins de vibrations, qu'il y a des gens qui étaient en arrêt de travail, qui ne pouvaient pas travailler comme chauffeur d'autobus, ont pu réintégrer l'emploi. Suite à un handicap au niveau du dos. On peut c'est réintégrer vrai. L'emploi parce qu'on a changé ces sièges-là. Donc, c'est une bataille syndicale qui a fait en sorte.
Et
puis
oui.
en plus, ceux qui restent à l'emploi, ben, ils ont un meilleur confort, moins de risque de se blesser.
Et l'employeur a des avantages à ça. Il y a moins de gens qui ont mal au dos, il y a moins d'absence.
Ça a pris une bataille quand même.
Et oui, hein, il en faut toujours.
Bon,
et écoutez, c'est vraiment, vraiment intéressant, un sujet... il faudrait que ces employeurs lisent aussi tous les avantages à avoir des personnes en situation de handicap aussi au sein de l'entreprise. Jessica, tu peux nous en parler?
Bien oui, en fait, c'est tout un changement de mentalité, puis de savoir réorganiser ces postes de travail, de miser sur les forces de chaque employé, en fait. Surtout dans les grandes entreprises, c'est tellement pyramidal, tellement tout est déjà inscrit d'avance sur les descriptions de postes, mais de juste à repenser à l'organisation du travail. Oui, c'est un travail à long terme, mais ça peut vraiment être bénéfique, puis l'entreprise peut vraiment avoir du profit, en fait, à refaire ça en bout de ligne. C'est un effort à faire au début, mais par la suite... La main-d'œuvre en ce moment, elle est là.
Oui.
Elle est prête à travailler. Donc, il y a une pénurie en ce moment sur le marché. On est dans l'ère où il faut changer les choses. Donc, moi, j'inviterais ces entreprises-là à être un peu plus ouvertes d'esprit, en fait.
Oui. Il y a un site intéressant, optezpourletalent.ca, oui. qui est très, très bien fait en ce
qui
sens.
Qui aide, en fait, et qui dirige un peu l'entreprise, en fait, dans ces démarches-là. Et puis, il y a des personnes ressources aussi à signer. Qui peuvent appeler pour être guidés à travers ça.
C'est vraiment intéressant et un grand merci à vous deux d'être venus en studio pour en parler aujourd'hui. D'ailleurs, Benoît me demande quel genre de salutation votre syndicat ou les personnes en situation de handicap peuvent faire en l'honneur de ce 1er mai. Alors, Benoît, tu vas nous proposer des choses peut-être via les médias sociaux. Merci beaucoup. Je le rappelle, Jessica Cacciatore, conseillère en emploi pour le programme Le Pont à Vie Autonome Montréal et Christian Cyr, coordonnateur du comité des négociations à la Confédération des syndicats nationaux. Merci d'être venu en studio aujourd'hui.
Merci.
Merci.
Écoutez Accès Libre.
Lundi, je me suis levé, faisait tellement pas beau que même les pigeons fonçaient des poteaux. Mardi, je me suis levé, faisait tellement chaud, le feu a pogné dans l'usine de poncho. Mercredi, je me suis levé, faisait tellement frette que même en avoir mille, c'était pas assez. Jeudi, je me suis levé, c'était tellement humide, tout le monde a frisé, permanent de splendide. Vendredi, je me suis levé, il battait tellement, pas moyen de prendre une marche en se ramassant sur le cœur. Fait jamais assez beau pour sortir dehors, pis quand ça du bon sang, mais tout le monde chiale encore. Fait que 20 semaines, on prend un break, pis on jase à ce bar. Vendredi, je vais me lever, ça a l'air qu'il annonce beau, mais ça a le temps de changer, j'aime mieux rien planifier. Fais jamais assez beau pour sortir dehors, pis quand ça a du bon sang, ben tout le monde chiale encore. Fait que 20 semaines, on prend un break, pis on jase la chambre.
Question de la semaine. Les droits des travailleuses et travailleurs en situation de handicap sont-ils bien reconnus? Comment les syndicats pourraient-ils favoriser une meilleure inclusion au travail?
N'hésitez pas à répondre sur nos médias sociaux et sur notre site internet, ou même au téléphone au poste 220. C'est maintenant le moment de vous faire découvrir ou redécouvrir un essai disponible en version audio édité par Vues et Voix. Aujourd'hui, il s'agit de Justice, bien juger pour bien agir, de Michael J. Sandel, publié en mai 2016 aux éditions Albin Michel. Je vous invite à écouter sa quatrième de couverture.
Plus de 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Plus de 6 millions de vues sur YouTube, déjà traduits dans près de 30 langues. Quel travail mérite salaire? Un gouvernement devrait-il être moralement neutre? Qu'est-ce que la liberté? Sommes-nous propriétaires de nous-mêmes? Le patriotisme est-il une vertu? Michael J. Sandel excelle dans l'art d'aborder sous un angle éthique les questions politiques les plus complexes en les ramenant à des enjeux dont chacun peut aisément se saisir. Professeur de philosophie politique à l'Université de Harvard, Michael J. Sandel compte parmi les personnalités américaines les plus influentes et les plus populaires.
Alors je vous le rappelle, si vous présentez une déficience visuelle ou une limitation qui vous empêche de lire un livre imprimé, vous pouvez profiter de ces versions en vous inscrivant au service du livre adapté du Québec par l'entremise de BANQ. Écoutons maintenant un extrait du chapitre 1 de Justice.
Bien-être, liberté et vertu. Ces questions ne concernent pas seulement la façon dont les individus devraient se comporter les uns envers les autres. Elles interrogent la nature même de la loi et l'organisation de la société. Ce sont là des questions de justice. Et pour y répondre, il faut d'abord examiner ce que justice veut dire. Nous avons d'ailleurs déjà commencé à le faire. Si l'on regarde attentivement les éléments en jeu dans le débat sur les prix abusifs, on s'aperçoit que les arguments s'organisent de part et d'autre autour de trois grandes idées. Maximiser le bien-être, respecter la liberté, et promouvoir la vertu. Chacune de ces idées correspond à une manière particulière de penser la justice. Lorsqu'on défend le libre jeu du marché, on fait en général valoir deux choses, le bien-être et la liberté. On commence par affirmer que les marchés favorisent le bien-être de la société dans son ensemble parce qu'ils incitent les gens à travailler dur pour procurer aux autres les biens qu'ils désirent, sachant que, bien souvent, on assimile ce bien-être à la prospérité économique en laissant de côté les dimensions non économiques du bien-être social. On explique ensuite que les marchés respectent la liberté individuelle en ce sens qu'il n'y a pas de détermination autoritaire de la valeur des biens et des services. Les marchés laissent les gens décider pour eux-mêmes quelle valeur ils souhaitent donner à ce qu'ils échangent. Sans surprise, ceux qui s'opposent à l'interdiction des prix abusifs mettent ces deux arguments au service de la liberté des marchés. Mais quelles réponses leur sont données par ceux qui défendent cette interdiction? Pour eux, on ne peut d'abord pas soutenir que la hausse exorbitante des prix pratiqués dans des moments difficiles favorise le bien-être de la société dans son ensemble. Même si des prix élevés permettent une augmentation de l'offre de biens, il convient de réévaluer cet avantage en tenant compte du fardeau supplémentaire que ces prix font peser sur ceux qui sont le moins en mesure de s'en acquitter. Pour les plus aisés, devoir débourser une somme excessive pour un litre d'essence ou une chambre d'hôtel peut être une source d'irritation, mais pour les plus modestes, de tels prix les exposent à une situation si critique qu'ils peuvent tout simplement ne plus avoir les moyens de se mettre en sécurité pour échapper au danger. Ceux qui défendent les lois contre les prix abusifs considèrent que toute évaluation du bien-être général doit tenir compte de la souffrance et des difficultés de ceux que des prix excessifs privent de l'accès aux biens de première nécessité en situation d'urgence. Les partisans de la loi anti-prix abusif soutiennent également que, dans certaines circonstances, le marché n'est en aucune manière libre. Comme le souligne Christ, les acheteurs aux abois n'ont aucune liberté. Leur accès aux biens de première nécessité, un logement sûr par exemple, se fait sous la contrainte. Quand on tente d'échapper à un ouragan avec sa famille, le prix exorbitant qu'il faut payer pour se procurer de l'essence ou un abri ne relève pas franchement d'un échange volontaire. Il tient plus de l'extorsion. Pour déterminer si les lois interdisant les prix abusifs sont légitimes, il nous faut donc évaluer ces manières différentes de concevoir le bien-être et la liberté.
Poussière d'ange de tomber de temps. tromper, mais c'est pas grave. Il peut revenir si tu restes sage. Juste au mauvais moment, une poussière d'ange est tombée dedans. Tu ferais une super maman, mais pas maintenant. Non, pas maintenant. Juste au
Question de la semaine. Les droits des travailleuses et travailleurs en situation de handicap sont-ils bien reconnus? Comment les syndicats pourraient-ils favoriser une meilleure inclusion au travail?
Alors aujourd'hui, nous découvrons des lieux touristiques et accessibles à tous au Canada et pas ailleurs dans le monde à l'autre bout de la planète avec Aube Savard. Je le rappelle.
Bonjour.
Bonjour Aube, vous êtes conférencière chez Kérou, les chroniqueuses avec nous à Canal M et à CKIA pour l'émission Les Capés. Alors, le Canada est-il un pays où il fait bon voyager, pardon, en fauteuil ou lorsqu'on est à mobilité réduite?
Bien sûr, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut
faire.
Oui,
et est-ce que le soleil est aussi accessible à tous? Vous allez nous le ramener un jour ou c'est... Bon, c'est à suivre. Mais vous avez concocté pour nous quelques destinations à visiter absolument.
Oui, bon, d'abord, il y a les Rocheuses, hein, oui. Nos fameuses Rocheuses canadiennes. Pour notre chronique, j'ai décidé de me concentrer sur l'Alberta. Et puis les Rocheuses, en fait, c'est un de mes plus beaux voyages. J'y suis allée deux fois, c'est vraiment magnifique. Il y a une organisation dans les Rocheuses canadiennes que je ne connaissais pas et dont j'ai entendu parler il y a seulement quelques années. Donc, après que j'ai fait mes voyages, et c'est le Rocky Mountain Adaptive.
Mm-hmm.
Et donc, c'est une organisation sportive qui permet à tout le monde, peu importe le type de handicap, de pouvoir profiter des Rocheuses canadiennes. Donc, il y a de la randonnée, il y a du vélo à main, il y a du ski aussi, évidemment, pour l'hiver. Où il y a plusieurs modèles de ski assis et de ski adapté qui sont disponibles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez génial parce que profiter de la montagne, c'est quelque chose qu'on a envie de faire.
Oui.
Et puis, ben forcément, ben, c'est quand même assez inaccessible d'habitude. Donc, d'avoir une organisation comme ça, c'est vraiment génial.
C'est super. Qu'est-ce que vous avez fait, vous?
Moi, rien du tout.
Vous avez contemplé la montagne.
Exactement. Non, mais la première fois que j'y suis allée, j'étais seule. Et donc, j'étais allée en béquille, sans mon fauteuil, parce que ça fait déjà de nombreuses années de ça. Et j'étais en meilleure forme, mais quand même pas en forme pour faire des gros trucs.
Ouais, je comprends.
Donc, j'étais restée quand même assez sage. Et puis, quand j'y suis retournée avec mon conjoint quelques années plus tard, mais ça fait déjà 17 ans, je pense, à peu près. Donc, ça fait très longtemps. Donc, Là, c'était avec le fauteuil et puis c'était plus un road trip. Donc, on a contemplé, effectivement.
Ouais, c'est beau.
Mais ça vaut la peine, juste ça.
Oui, c'est vrai.
Juste contempler les Rocheuses, ça vaut la peine.
Donc, et ensuite, qu'est-ce que vous nous parlez, de quoi vous nous parlez? Là, je vois des mots-clés qui donnent envie, là, canoë, kayak, rafting.
Oui, ben c'est ça. Cette même organisation-là propose toutes sortes d'activités, donc des activités qui parfois ne demandent pas autant d'adaptation là, que faire de la randonnée en montagne où ça prend un fauteuil et puis des gens qui vont pousser, tirer le fauteuil adapté et tout. Mm-hmm. Donc, il y a du canot, il y a du kayak, du rafting, de l'équitation. Évidemment, c'est ouvert aussi aux gens qui n'ont pas de handicap. Et comme je vous disais, c'est ouvert aussi aux gens, peu importe le type de handicap. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a toutes sortes d'activités qui, parfois, ne sont pas nécessairement accessibles aux personnes avec une déficience motrice,
oui,
mais qui vont l'être pour une personne qui a une déficience intellectuelle, ou etc.
D'accord.
Donc, et puis, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a toutes sortes de programmes qui sont à faire avec cette organisation-là. Il y a des activités de jour, des activités de soir, il y a des camps. Mm-hmm. On peut obtenir de l'équipement en location. Il y a des leçons privées et il y a aussi ce qu'ils appellent des expériences. Et ça, c'est en fait, si par exemple, moi qui n'ai jamais fait de randonnée en montagne, j'ai envie d'essayer et que mon entourage ne sait pas manipuler un fauteuil adapté pour aller en montagne et tout, eux vont pouvoir organiser une sortie exprès pour moi.
Oui.
Et en ce qui concerne la randonnée en montagne, les expériences sont gratuites.
D'accord.
Et donc, c'est quand même assez génial parce que d'ordinaire, ça coûte quand même un petit montant d'argent.
Ouais. Donc là, en fait, ce que vous nous dites, c'est que le baptême, entre guillemets, d'une randonnée avec eux, c'est gratuit.
Exactement.
C'est super. Et ils existent qu'en Alberta?
Oui. Selon moi, oui. Rocky Mountain Adaptive, donc c'est vraiment rocheux.
Génial.
Ouais, c'est vraiment génial.
Ben oui,
le Columbia Ice Field, donc le gros glacier qu'il y a dans le parc national des Rocheuses. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que la compagnie qui possède des gros bus tout terrain qui permettent d'aller sur le glacier comme tel, ce sont des bus qui sont accessibles. Donc, c'est la compagnie Brewster qui possède ces bus-là et qui organise ces excursions-là. Moi, j'étais allée, c'est vraiment génial.
Mm-hmm.
C'est vraiment le fun de se retrouver sur un glacier, de sentir les endroits qui sont un petit peu plus mous, où on sent qu'on renfonce un tout petit peu, de voir les crevasses avec l'eau qui s'écoule, de voir la couleur du glacier aussi de près.
Ça, c'est à l'intérieur du bus que vous voyez tout ça ou vous pouvez...
Non, on en descend aussi.
OK.
Ouais, c'est quand même, c'est pour ça que c'est vraiment génial comme expérience à faire. C'est sûr que c'est un petit budget, là, c'est... je sais plus, là, 75 ou 100 $, quelque chose comme ça, mais ça vaut vraiment la peine.
Ouais. Et c'est combien de temps?
Oh mon Dieu, je me rappelle plus, ça doit durer quelque chose comme peut-être une heure et demie.
OK, d'accord.
Ouais,
un petit tour
c'est
sur
le temps de bon d'embarquer, de se rendre. Je sais qu'on descend, on y reste peut-être une vingtaine de minutes et puis après on repart. Donc, c'est très approximatif et c'est selon mes souvenirs là, ce que je vous dis.
D'accord. Et ça, on le retrouve comment, cette compagnie?
C'est la compagnie Brewster, mais si on va sur banffjaspercollection.com, on va pouvoir retrouver toutes les informations qui ont trait à cette excursion-là, finalement.
Puis vous vouliez nous parler aussi d'un musée en une minute?
Oui, qui est un musée, encore une fois, aussi vraiment, mais vraiment extraordinaire. Un musée que j'ai visité et j'ai eu énormément de plaisir et il est fantastiquement adapté.
Qu'est-ce
donc,
qu'on y
c'est
voit?
Le musée Royal Tyrrell.
Ouais.
C'est à Drumheller en Alberta. C'est à peu près à 138 km de Calgary. Et c'est l'un des plus grands, du moins, musées de paléontologie au monde.
Ah.
parce que dans cet endroit de l'Alberta, c'est là qu'on a découvert les plus vastes cimetières de dinosaures. Et le musée a la particularité d'exposer une quarantaine de squelettes complets de différentes tailles de dinosaures. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et il y a souvent une reconstitution des habitats naturels, ce qui permet de nous mettre en contexte et de bien comprendre quelle était la vie à l'époque avec toute la végétation. C'est vraiment, vraiment génial. Vraiment, moi, j'ai adoré ce musée, mais adoré. Il est magnifique.
Et on peut faire les trois en un séjour, puisqu'ils sont tous en Alberta.
C'est... Exactement.
Vous nous avez préparé une semaine cet été.
En plein ça!
Mais merci beaucoup, Obsavar. C'est vrai, ça sent les vacances, on a hâte. Donc, oui. on se reparle peut-être avant la fin de la saison. Il me semble qu'on va se reparler encore. Et je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir.
Oui, au plaisir. Merci beaucoup.
Ton éclat trahit la pénombre. La noirceur ne te fait pas d'ombre. Ton reflet trouble l'océan. Seul tes mots balaient le
Question de la semaine. Les droits des travailleuses et travailleurs en situation de handicap sont-ils bien reconnus? Comment les syndicats pourraient-ils favoriser une meilleure inclusion au travail?
En réponse à la question cette semaine, je vous lis quelques interventions glanées sur nos réseaux sociaux par Christiane Campagna. Alors Louise Marceau écrit « Déjà, en regardant les forces d'une personne au lieu de ses incapacités, c'est un grand pas de fait. Il n'y a souvent qu'une adaptation de l'espace ou du poste de travail. Exemple, pour une personne de petite taille, comme une amie qui travaillait en usine, qui devait manipuler à l'occasion un lourd boyau de rinçage à un poste où d'ordinaire c'était de grands hommes, une plateforme mobile qui pouvait se barrer sur place lui permettait d'avoir une bonne position pour ne pas se blesser aux épaules, ni au dos ou au bras. Juste quelques centimètres sont suffisants pour gagner sa vie sans risque de maladie professionnelle. Marc-André écrit « Trop souvent, dès l'entrevue d'embauche, la discrimination s'installe. » Et Lisa D'Amico, que j'inviterai à développer par la suite là, pour ses prochaines réponses, si jamais elle le souhaite, poser ce genre de questions est une insulte à notre intelligence. Alors voilà, merci aussi à toutes ceux et celles qui ont répondu en plus. N'hésitez pas après avoir entendu nos invités en table ronde, à prendre la parole sur Facebook, Twitter ou directement sur la page de l'émission canalm.vusevoix.com. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous nos invités. On retrouve les sites internet des organismes, les sites internet de nos invités et tout ce qui vous intéresse dont on a parlé à l'émission sur le site internet et donc de canalm.vusevoix.com sur la page émission Accès Libre. Cette émission vous est possible grâce aux soins d'une super équipe, Christiane Campagna aux communications et bien plus, Jean-Sébastien Deliberté à la mise en onde et aux choix musicaux, Benoît Rassette à la recherche et à la réalisation. Ici Anne-Laure Janson, on se reparle la semaine prochaine et d'ici là, on veut travailler en accès libre.